pour investir, le déchiffrage.
Avec Olivier Le Chevalier de DeftEdge. Bonjour Olivier.
Antoine.
Et Félix Baron du Club des investisseurs.
Bonjour Antoine.
Merci d'être en plateau tous les deux. On vient d'entendre Dominique Sénéquier, la patronne d'Ardian, sur la problématique de la dette privée. Alors, on sait que c'est quelque chose finalement d'assez contenu plutôt du côté américain et en particulier du côté des investissements dans les logiciels. On a BNP Paribas ce matin qui dit globalement le problème est vraiment circonscrit, la dette privée européenne, il n'y a pas de risque de contagion, etc. Bon, malgré tout, on voit que ça rentre dans le wording, dans le flow de sentiments de marché là en ce moment. Olivier Le Chevalier, est-ce qu'il y a de quoi quand même rester prudent sur cette espèce de bulle, enfin de black box, hein, d'espèce de boîte noire?
Effectivement, non, il faut rester prudent. De toute façon, ça vient toujours outre-Atlantique. Hein. Il y a les premières sirènes, l'alarme, etc. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut rester prudent. Comme elle le disait bien, hein, c'est surtout sur le secteur du soft, notamment, qui a été surévalué entre 2019 et 2022. Hein,
c'est presque une bulle à retardement, en fait. C'est assez curieux.
En fait, le côté agréable du software, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus qui vont être récurrents pendant des années, parce que vous allez vous abonner, par exemple, peut-être vous prenez un abonnement SAP ou Oracle, etc. Vous n'allez pas contracter pour un an. Donc, c'est des projets qui sont longs en termes de développement. Donc, vous allez vous abonner sur ces sources au minimum 5, 7, 8 ans. Et donc, voilà, ça fait des revenus qui sont relativement stables pendant des années. Et du coup, évidemment, si vous n'avez pas la dynamique de marché qui vous permet aussi de gagner des parts de marché suffisantes, donc vous avez eu un effet de levier où vous avez eu beaucoup plus de dettes qui ont été levées. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que les ratios, ce qu'on appelle surtout le ratio de couverture qui est l'ICR, qui est en fait la partie EBIT sur remboursement de taux d'intérêt, en fait c'est le résultat opérationnel, on a vu qu'il tournait autour des 1,5. Donc normalement, vous devez être à 2. C'est une zone de vigilance. Quand vous êtes à 4-5, vous êtes bien, c'est-à-dire que vous êtes sain. Et donc là, en fait, on a eu pas mal d'alertes où on disait que ces ratios tombaient à 1,5 en moyenne. Et donc, c'est pour ça que ça met de la tension, en fait, sur ces marchés. Après, ce qui se passe naturellement d'un côté, outre-Atlantique, en général, c'est un peu répliqué quand même en Europe. On a quand même tendance à faire... quand même la même chose. Donc je pense que oui, on reste quand même attentif et se dire qu'il n'y aura pas de contagion à minimum. Vous avez eu du stress, ils ont retiré ils retiraient pas mal, 10 milliards, ce qu'ils avaient l'air de dire et de communiquer dans la presse. Heureusement qu'il y avait des amortisseurs, vous pouvez partir effectivement tous vos fonds immédiatement. Mais il s'agit de faire attention et que... le stress qui est opéré sur les logiciels outre-Atlantique, on l'a aussi en Europe.
C'est-à-dire qu'en plus,
difficile de vendre.
Dans un marché où, de toute manière, on est vraiment assailli par les facteurs techniques, les marges à la vente, les appels de marge, ceci, cela, des fois, on aimerait bien vendre des actifs ou des lignes de crédit qu'on a pour pouvoir combler les trous sur d'autres classes d'actifs. Et là, on ne peut pas.
C'est exactement. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, l'effet un peu pervers, là, juste pour compléter pour la partie dette là, des privés, c'est-à-dire comme ils n'arrivent pas à rembourser, en fait, ils la reportent et ils la remettent dans la dette. Donc, en fait, la bulle augmente en permanence.
Bon, donc voilà. C'est vraiment à guetter. Félix Baron, on va quand même se consacrer avec vous au chiffre du jour, les 1000 milliards de dollars de promesses de commandes là, de Jensen Huang. Bon, c'était ces dernières heures avec la fameuse réunion Nvidia qui était très attendue. Vous nous dites 1000 milliards de promesses. C'est un petit peu comme au Téléthon, c'est les dons, les promesses de dons. Ouais, voilà, 1000 milliards, c'est un chiffre qui plaît beaucoup au marché.
C'est un chiffre déjà que personne, en termes de chiffre d'affaires, personne ne pèse 1000 milliards. Hein. La première société, elle est Walmart, et à peine à 697 milliards de dollars. Vous avez peut-être Saudi Aramco et Amazon derrière. Et on pourrait le comprendre, parce que c'est de l'énergie ou de la grande distribution. Vous parlez à énormément de monde. Nvidia a quelques centaines, quelques milliers de clients, c'est tout. Ouais. Mais quand Jensen Huang annonce quelque chose, c'est généralement pas du vent. Et en fait, derrière ce chiffre, alors qu'il représente donc soit des carnets de commandes, soit des revenus, hein, ils ajusteront fin 2027, c'est quand même dans moins de deux ans. Derrière ce chiffre, il y a une révolution matérielle, une révolution dans le hardware qui est comparable pour moi à la révolution au passage de la fonte vers l'acier dans la révolution industrielle. Sauf que là, on n'est pas 150 ans avant, mais je peux vous dire, ça aurait été pratique de savoir qui allait profiter du chemin de fer, qui allait profiter de tout ça, d'être dans ces petits papiers-là. Ce qu'il y a, c'est que ces 1000 milliards, ils étaient estimés à 500 milliards il y a 6 mois.
Ouais.
Donc on est en plein dans la fameuse loi de Moore où, en gros, la productivité double tous les 18 mois. Sur quoi repose cette prédiction de NVIDIA et de Jensen Huang? Eh bien, c'est que vous avez un premier moteur, on en a déjà parlé ici, c'est le fameux modèle Blackwell. Aujourd'hui, Blackwell, c'est la principale architecture de puissance de calcul de NVIDIA. Donc, vous mettez les puces sur les racks et vous installez ça chez les géants du cloud. Donc, quand vous êtes en déploiement massif chez les géants du cloud, avec des Amazon Web Services, avec des Oracle, avec des Microsoft, etc., forcément, on comprend que c'est facilement des contrats à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. Donc, c'est un premier moteur vers les 1000 milliards. Deuxième moteur, le vrai turbo, c'est la nouvelle architecture qui a été présentée, le fameux Vera Rubin. Et là, avec les puces Vera Rubin, vous allez diviser par 10 le coût du token. Qu'est-ce que c'est, très simplement?
Le fameux token.
Un million de tokens, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 à 3000 conversations que vous avez avec votre IA. Une conversation complète avec une dizaine de questions. Un million de tokens, ça coûtait $5 il y a 6 mois, ça coûte aux alentours de $1 aujourd'hui. Et donc, NVIDIA annonce de diviser ce prix par 10. On est vraiment dans cette loi de Moore dont je vous parlais. Et comment ils arrivent à réduire ce coût du token? Avec des nouvelles puces, toujours les R100, mais cette fois en gravé en 3 nanomètres. Gardez ça à l'esprit, parce que nous, on a des bons graveurs de puces quand même en Europe.
Un certain nombre.
SML, notamment.
SML, oui.
Et aussi grâce à une nouvelle mémoire vive. J'ai parlé de la RAM plusieurs fois, les HBM4. Et les HBM4, ça nous fait penser à Micron ou à Skynix.
Skynix, ouais.
Le troisième propulseur vers les 1000 milliards, c'est Open Cloud. Là, c'est la révolution agentique de l'IA. C'est-à-dire, on est passé d'une IA qui prédit le prochain mot, vraiment sur cette fameuse matrice de calcul de probabilité, à une IA qui va réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est très important. OpenClaw, NVIDIA l'explique un peu comme si c'était l'OS, donc le système d'exploitation, le Windows pour les plateformes d'IA. Oui. Ça va permettre, en fait, aux agents IA et aux robots d'être beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiable. Et ça, c'est un marché de 35 000 milliards de dollars qui s'ouvre pour NVIDIA. Et le dernier, et le moins prévisible, c'est l'alliance de NVIDIA avec Grok. Donc Grok, qui est quand même l'IA de X, d'Elon Musk. En gros, on savait que NVIDIA, ils sont leaders parce qu'ils ont la puissance de calcul, et que Grok, ce qui faisait peur, c'est qu'ils sont extrêmement rapides en inférence, c'est-à-dire en vitesse de réponse.
Oui.
C'est le moment où l'inférence, où l'IA utilise ce qu'elle a appris pour vous répondre. Eh bien, au lieu de faire concurrence, ils vont faire un partenariat, une alliance avec, donc, je parle beaucoup de matériel de hardware aujourd'hui, créer des racks hybrides avec à la fois donc la combinaison de la vitesse d'inférence de Grok et de la puissance de calcul de NVIDIA. Ça va être crucial donc pour que, encore une fois, les agents IA soient extrêmement fiables et rapides. Donc, les implications de toute cette révolution matérielle qui va arriver dans les 18 mois, eh bien, sur le marché actions. Si on réfléchit, avec des nouvelles puces Rubin et des data centers toujours plus performants, ça va chauffer. Ça va chauffer, donc il va falloir refroidir. On a déjà parlé des spécialistes de refroidissement des racks et des data centers. On en a un très bon en France, c'est Schneider. Donc Schneider Electric, c'est toujours en croissance. Et puis aux États-Unis, vous avez Vertiv, qui est très bon. Deuxième point, j'ai parlé de la mémoire tout à l'heure. On avait déjà parlé de SK Hynix, le coréen. Le sud-coréen est très difficile à acheter sur les marchés parce que les plateformes ne donnent pas vraiment accès. Mais vous avez Micron Technology qui ne s'arrête pas de grimper.
Il y a SanDisk aussi.
Pardon ?
Le bon vieux SanDisk.
Ouais, il y a ça aussi. Mais vraiment, en termes de croissance et de valorisation, le ratio PER de Micron, qui a quand même pris plus de 100% en 3 mois, reste toujours entre 10 et 12. C'est vraiment pas cher vu la croissance qui va arriver. Ensuite, vous avez la connectivité optique. Il va falloir, avec ces nouvelles puces, avoir une vitesse de transfert colossale entre des milliers de GPU. Donc là-dessus, c'est Broadcom. Broadcom, pareil, très forte croissance, ça a beaucoup augmenté. Mais bon, les arbres montent peut-être pas jusqu'au ciel, mais c'est toujours en croissance. Et puis, la fameuse marche qu'on attend tous, c'est les gains de productivité, enfin un peu d'IA dans les softwares, et ça, ça va être avec OpenClaw.
Ouais.
Donc, guetter les premières sociétés qui vont commencer à construire de l'IA et de la productivité sur OpenClaw. Et là, déjà, vous avez Palantir, par exemple, ou ServiceNow, et peut-être demain des boîtes comme Salesforce, mais pour l'instant c'est surtout Palantir et ServiceNow. Donc là vous avez le hardware en amont et le software en aval.
Olivier Le Chevalier, là on parle des matières premières du futur, on va parler des matières premières de la bonne vieille économie. Alors déjà le pétrole, visiblement, un petit peu comme l'or il y a quelques semaines, il y a du frottement entre les produits financiers et le pétrole physique. Et d'autre part, du côté des métaux. Moi, je remarque que ArcelorMittal devient le titre le plus réactif sur le CAC 40 à la hausse et à la baisse des cours du pétrole. Et il y a de l'agitation sur les métaux, sur l'aluminium notamment. Et ça, vous pouvez peut-être nous en parler, parce que faut être vigilant là-dessus.
Exactement. Bon, là, c'est vrai que l'actualité est très portée sur le pétrole. Ouais. Et du coup, on se revient en se disant, effectivement, du pétrole, on en a dans... En fait, dans toute l'activité économique, que ça soit les acides, le transport, le fret, le plastique, etc. On a vraiment... Et effectivement, le détroit d'Ormuz a fait ressortir aussi qu'il y avait 9% de l'aluminium qui passait en fait par le détroit. Donc forcément, il s'est retrouvé bloqué. Et ce qui s'est passé hier sur les marchés, c'est que la cotation sur le LME a été bloquée en fait pendant 2 heures. Parce que justement,
il y avait des métaux de Londres. Ils ont complètement glitché.
Exactement. Donc ils ont complètement bloqué la cotation. Et donc du coup, c'était pas mal parce que ce qui s'était passé il y a déjà 2 ou 3 semaines sur l'argent qui avait drastiquement, ils n'avaient pas réussi à stopper. Et là, du coup, ils ont stoppé pendant 2 heures les cotations. Donc sur l'aluminium, le zinc et le cuivre, forcément, parce que du coup, c'était les métaux de demain qui vont être utilisés. Donc forcément, il y a du stress qui apparaît sur ces marchés pour tous ces...
Félix, vous restez bien vigilant là-dessus aussi.
Oui, mais je pense que c'est passionnant parce que ce qu'on voit en fait, c'est qu'avec ce blocage sur le détroit d'Ormuz, c'est que, Olivier l'a dit, il n'y a que 9% ou 10% de l'aluminium qui passe par le détroit, mais ce que les marchés anticipent avec la hausse des cours, en fait, c'est soit une rupture de la chaîne logistique mondiale. Et on a connu ça quand même il y a 4 ans.
Bien sûr.
À la sortie du confinement, il suffisait qu'un bateau se mette en travers du canal de Suez pour que tout le monde panique. Soit la rupture, soit au moins un peu le grippage de la chaîne. Et que ça crée des délais sur les bateaux, sur l'approvisionnement. Et en fait, l'aluminium aujourd'hui, en soi, sur la demande, elle bouge pas vraiment. C'est toujours le principe d'un marché en backwardation. C'est plus cher aujourd'hui parce qu'on anticipe qu'on en aura plus difficilement demain.
Ouais, voilà. Effectivement.
Donc, pour répondre à votre question, il faut rester vigilant.
Ouais, vigilant et puis trier les biais comportementaux de la véritable offre et demande qui font le marché. Et c'est bien difficile en ce moment. Messieurs, merci infiniment. C'était passionnant.
Merci
Olivier Le Chevalier, DeftEdge et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants.